Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Blaise Zainda. Il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Bonjour Blaise Zainda.
Bonjour mon estimé confrère Guy Maté.
Rostem Anketa, il est directeur exécutif de l'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans Voix. Bonjour Rostem Anketa.
Bonjour cher Guy Maté.
Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Le Soir. Bonjour Madame Colette Blackman.
Bonjour.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de sept derniers jours de la semaine.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Blaise Zainda, il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Rostem Anketa, il est directeur exécutif de l'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans Voix. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Le Soir. Au menu de cette émission, le risque d'une guerre régionale avec la chute des Kanyabayonga et l'avancée des rebelles vers le nord. La problématique de cohésion pour faire face à la situation sécuritaire dégradante dans l'est du pays. Et enfin, situation humanitaire difficile des déplacés de Kwamout avec augmentation des cas de décès sur le site des déplacés. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la promesse du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de bannir les antivaleurs au sein de la police nationale congolaise. En effet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemet Chabani, a promis jeudi 4 juillet de bannir les antivaleurs au sein de la police nationale congolaise, notamment les arrestations arbitraires et la corruption. Il l'a dit au cours de la cérémonie de sa présentation à la police nationale congolaise à Kinshasa. Pour édorer l'image et des marques de la police nationale, il est primordial de bannir les antivaleurs telles que la corruption, les arrestations arbitraires et la concussion. Il y a également les tracasseries policières et routières qu'il faudra à tout prix éradiquer. Toutes ces antivaleurs doivent être éradiquées au sein de vos unités respectives, a martelé Jacquemet Chabani. Blaise Zainda, que pensez-vous de cette promesse faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur?
Je voudrais d'abord saluer tous les intervenants à cette émission de cette semaine. Par rapport à mon petit commentaire, je crois que ce sont des bonnes intentions qui sont à placer dans le cadre de la prise des fonctions du nouveau vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, mais le nœud du problème ne repose pas sur les instructions et tout ce qui va avec. Je pense que le vrai problème repose sur la dimension sociale du policier. Combien touche un policier ? Dans quelles conditions habite un policier ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour la scolarisation ou la scolarité de ses enfants ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour la ration mensuelle du policier ? Ce sont là les grandes questions, parce que tant qu'elles ne seront pas réglées, quelles que soient les bonnes intentions qui seront dictées soit par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur ou le premier ministre, ou encore le chef de l'État, on n'arrivera jamais à trouver de solution, car ils seront toujours dans l'obligation de procéder à des pratiques qui ne sont pas du tout conventionnelles, mais qui leur permettraient, d'une manière ou d'une autre, de soutirer de l'argent aux pauvres civils que nous sommes.
Merci, Rostem Anketa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, promet de combattre, comme l'avons dit, notamment les arrestations arbitraires et la corruption. Mais à votre avis, qu'est-ce qui pourrait constituer la pesanteur dans cette démarche?
Écoutez, je dois vous dire que j'ai suivi le vice-premier ministre et j'ai été très content de ses propos. Mais comme vient de le dire Blaise Zainda, que je salue, c'est que il faudra pas que le vice-ministre s'arrête à ses belles déclarations, à ses intentions aussi louables soient-elles. Mais le plus important, c'est comment améliorer effectivement, je dis bien effectivement, les conditions socio-professionnelles des policiers en République démocratique du Congo. Écoutez, j'ai toujours dit, nous, je peux dire la voix des temps de l'homme, nous avons toujours dit que les policiers font un travail très remarquable ici en République démocratique du Congo, mais un travail qui est souvent mal perçu par ces anti-valeurs dont certains d'entre eux sont parfois les auteurs. Et tout cela, c'est tout simplement parce qu'ils sont dans de mauvaises conditions professionnelles. Ce sont ces policiers qui travaillent nuit et jour pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens, mais les conditions dans lesquelles ils travaillent sont très déplorables. Et si ces conditions sont améliorées, je pense que le vice-premier ministre là rendrait un service très très important à toute la nation congolaise.
Merci, Madame Colette Pacman. Dans une société où certaines antivaleurs comme la corruption sont devenues presque des pratiques normales, dans un tel contexte, quelle peut être la marge des manœuvres d'un ministre qui tient à combattre ce genre de pratiques?
Ben, il doit faire appliquer la loi. Je crois que la première chose, c'est montrer qu'il prend les règlements et les lois au sérieux et qu'il les fait appliquer. S'il fait passer le message, les gens vont comprendre assez vite. Mais c'est pas très facile parce qu'évidemment, il faut aussi que les salaires payés aux policiers leur permettent de vivre décemment. Si ce n'est pas le cas, il y aura évidemment des tentations.
Merci. On prend une petite pause avec Tolérance Zéro des Roga Roga et on revient juste après.
Hela ma ona ikolo samona wala roga roga misi na ningina loba hoye koya heya
bio bibe bio bibe sanuka lubi kiti tokori bio bibe bona ekolo lotika mokoti la lubi
soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga barapora mabe epai ya chapo na baninga bakoya ki onti valeur na corruption dabeji a banir destabilisation ya administration ya mboka toboye je suis la voix des sans voix oyo elobami na te na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout tu as acheté les voitures même et construit les villas au septième fan tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État, aux vraiment mon Libye. Avec les contrôleurs d'État très 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 corrompus, la République est devenue bananière, Bioubipé et Léki. Cette fois-ci, au Kondialobi rupturé, ouvre bien tes oreilles, rupturé total. Pétrole poti kako détourné mbongo ya nzete paye kenda toyebite mbongo ya impôt na douane impôt versé na trésor mbongo la mérite au sengi décentralisation totale trafic d'influence et comme instrument nabino bonela kabato bokana kabato Osala bato mabe, wonga naza famille à chef, wonga naza mwana mokondi, zéro, vraiment zéro. Mais ça n'a concours été, toi examen pour la kokoma mwana mokondi na Congo. Yeza kakadra, hexe de zèle, yango mabe na Congo mokondi à lobby, rupture est totale. Mboka na yon internet eza mabe Ba intox inutile na ba réseaux sociaux Okokoma liboma Le ballon se joue sur le terrain Et non dans les gradins Arrête avec l'impunité Le Congo doit aller de l'avant DFT production Soki l'Etat et petit marché na mindele Boko miko lelae Soki ba pesi na libanais Obimisi xenophobie nyonso bobomba Ba pesa pino o malone
bébé nyonso libanda bande ko na batia ba chef ba koma opérateur économique mbango ya l'état bagia ba tire sa misalaté jamais jamais ba traduit bango na justice Mbongo na bango ya moyibi, ebomi mabala na Congo. Le village est devenu têtu parce qu'il a importé de mériter. Désordre et indiscipline, c'est déjà révolu. La nouvelle république Oyo, tolérance est zéro. Salaire n'yon soit pour soi, il faut parler. Congo la lingue kaka, ya opele. Akoya monte la trésor et tako kenenda koye liboso. Fonction publique et comme publique, on va ventiler ma tente et belé. Ma conquête est à la terre, sous cassant de salaire et l'équipe. Surtout du nom Oyo, bateau à financer. La présidence, la mairie n'a la santé. SNPC, la contrefonte de la champion.
C'était Tolérance Zéro avec Roga Roga, cet artiste musicien, compositeur, guitariste congolais qui, à travers cette chanson Tolérance Zéro, dénonçait les antivaleurs. On revient à l'actualité de cette semaine au Nord Kivu. Les partis en conflit armé opposant la RDC à la rébellion du M23 étaient appelés à observer dès ce vendredi à minuit une trêve humanitaire de 2 semaines. L'annonce vient du gouvernement américain. Dans un communiqué officiel rendu public jeudi, la Maison-Blanche dit saluer cette trêve dans laquelle se sont déjà engagés les partis impliqués. Le gouvernement congolais confirme la trêve humanitaire de 2 semaines obtenue par les États-Unis. Pour le porte-parole du gouvernement, cet arrêt des hostilités doit permettre le retour volontaire des personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave. Cette trêve intervient après des combats qui ont opposé les deux parties et qui ont abouti à la chute vendredi 28 juin de la commune rurale de Kanyabayonga, située à une centaine de kilomètres de Lubero au centre. Après Kanyabayonga, plusieurs autres localités sont passées sous le contrôle des rebelles du M23 qui ont tendance à se diriger vers le nord. Madame Colette Brachmann, vous êtes journaliste au journal Le Soir. Vous avez souhaité nous parler de ce que vous qualifiez des risques d'une guerre régionale avec la chute de Kanyabayonga et l'avancée des rebelles vers le nord. On vous écoute.
Oui, mais il me semble, si on regarde la carte et les zones d'influence, que ce nouveau développement de la guerre est inquiétant. Et d'ailleurs, la preuve en est l'inquiétude et l'action diplomatique des États-Unis qui ont réussi à imposer une trêve parce que ils ont peur que le processus dérape vers une guerre régionale qui fait un peu penser à ce qui s'est passé voici 20 ans, au moment de la deuxième guerre du Congo. En effet, si on regarde la carte, le M23 dépasse sa zone d'opération habituelle, la zone où il peut compter sur l'appui de certaines personnes au sein de la population. Il arrive plus vers le nord, qui est dans une zone qui traditionnellement est dans l'aire d'influence de l'Ouganda. Or, si on en croit le rapport des experts qui dit que le M23 est soutenu par Kigali, tout d'un coup, il arrive dans une zone où l'Ouganda a une certaine influence. Ça joue aussi sur l'exploitation des ressources. C'est une zone où l'Ouganda prélève aussi sa part des ressources, et ça me paraît évident. Donc c'est dangereux. S'il avance vers Beni, s'il avance vers peut-être un jour vers Kisangani, moi ça me rappelle ce qui s'est passé à Kisangani, la fameuse guerre des 6 jours à Kisangani, où ce sont bien les Rwandais et les Ougandais qui se sont battus dans cette ville congolaise pour une question d'intérêt économique.
Oui, sur le terrain des opérations se trouvent des forces qui sont présentes, n'est-ce pas, sur ce terrain, mais qui ne sont pas encore intervenues malgré l'avancée du M23. Il s'agit des troupes de la SADC et les troupes burundaises. Madame Colette Wattman, qu'est-ce qui peut expliquer que ces forces n'arrivent toujours pas à s'impliquer dans les combats, en dépit du fait que la rébellion gagne du terrain?
Mais ça, c'est évidemment le mystère. Normalement, ils étaient engagés pour défendre le Kivu, mais j'ai l'impression qu'arrivés dans le Grand Nord, ils arrivent eux aussi en terrain inconnu et que peut-être ils ne savent pas qui est qui, parce que dans la zone où le M23 est en train d'arriver. Il y a aussi les combattants ADF, ADF Nalu, qui sont des islamistes qui ont des bases arrière en Ouganda et aussi dans le parc naturel, le parc des volcans. Donc ils savent peut-être pas très bien à qui ils ont affaire et ils observent un moment de retenue, si vous voulez. En espérant peut-être aussi que la trêve décrétée par les Américains va fonctionner.
Merci. Blaise Zainga, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes manager de médias. Au vu de cette attitude, de ces forces que nous venons d'évoquer, les forces de la SADC et du Burundi, qui sont sur le terrain, mais qui jusque-là n'arrivent toujours pas à intervenir, peut-on penser que ces forces auraient une ligne rouge qui, si le M23 la franchissait, ces forces pourraient intervenir?
Bon, je ne pense pas être dans cette dynamique-là. Je n'appuie pas trop cet argumentaire parce que pour moi, regarde d'abord du nombre de militaires qui composent cette force-là face à certaines images que nous voyons, qui nous sont diffusées généralement sur les réseaux sociaux, on voit pratiquement cette armée munie de plusieurs hommes du M23. Je ne sais pas ce qui peut être fait concrètement pour essayer de renverser la situation. On ne peut pas que citer le Rwanda dans cette situation. Il faudrait que nous soyons réglo et que nous restions rationnels dans tout ce qu'on pose comme acte. L'Ouganda aussi est partie prenante dans cette guerre. Il y a plusieurs rapports qui ont accusé l'armée ougandaise d'interférer, sinon peut-être de participer aussi d'une manière ou d'une autre à l'assaut de plusieurs entités qui ont été récupérées par les M23. Déjà que les M23 comme soubassement Bounagana, hein, qui se trouve être une entité frontalière à l'Ouganda, alors on se pose des questions. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt le fait que Kanyabayonga, qui pendant tout ce temps n'a jamais connu une défaite, du moins en ce qui concernait l'armée républicaine, l'armée nationale, après tout ce temps, si après les RCD, Goma et tout ça, donc c'est la toute première fois que nous revoyons encore Kanyabayonga retomber entre les mains d'une force qui se veut rebelle. Et ce sont des choses qui doivent nous inquiéter parce qu'on sait, quelque part, ils ont déjà pris Kanyabayonga, ils ont pris Kirumba, Kaina, déjà, on en parle. Et alors il ne reste plus que les villes de Butembo, le territoire. On peut prendre Lubero, et puis on prend Butembo, et puis Beni, et puis on continue. Mais c'est là, nous sommes dans la zone où l'armée ougandaise est en pleine opération avec les FARDC en ce qui concerne la traque ou la neutralisation des ADF. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est la crainte de mon estimé consoeur, collègue Brachman. Je ne sais pas ce qui va se passer si nous arrivons à disposer d'un espace où toutes ces forces vont se retrouver. On prend Samira Dessé avec la SADC, on prend le Burundais qui sont le seul troupe restée de l'EAC grâce à la décision du gouvernement congolais et celui du gouvernement burundais. Alors on ne sait pas dans quel brasero nous allons nous retrouver et quel sera le sort de cette population. Ce sont là les grandes questions. La crainte, elle vaut son pesant d'or. Il y a une crainte que cette guerre puisse embraser la région.
Merci. Rostem Akinta, vous êtes directeur exécutif de l'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans Voix. Est-ce que vous pensez qu'il y a risque de guerre régionale comme le redoute Madame Colette Bachmann?
Ah, oui, chef du maté, je partage complètement ce que dit Madame Colette Bachmann, que je salue et que notre organisation La Voix des Sans Voix de l'homme connaît bien. Je partage cela, mais je voudrais tout simplement dire que en lieu et place d'imposer une trêve de 2 semaines, je pense que la communauté internationale, c'est le pied vraiment de bonne foi. Et à travers elle, les États-Unis qui ont imposé cette trêve auraient dû demander tout simplement au Rwanda de retirer de manière effective ses troupes de la République démocratique du Congo. Parce que le M23, comme on le souligne, ne peut jamais enregistrer de telles avancées sans un appui extérieur. La communauté internationale, nous l'avons dit il n'y a pas longtemps à travers un communiqué, je pense que au-delà des déclarations qui sont faites, nous avons toujours exigé des actions concrètes pour arrêter cette agression dont la République démocratique du Congo est victime. Une agression qui est à la base des souffrances indicibles des populations congolaises, une agression qui est à la base de violations massives et graves des droits humains qui ne peuvent pas laisser indifférente la communauté internationale. Franchement, nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous ne comprenons pas cette attitude qui s'arrête tout simplement à faire des déclarations, mais sans action concrète. Là, voilà, il y a une action concrète. On demande, on impose une trêve de 2 semaines, mais pourquoi ne pas demander tout simplement au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo? Pourquoi pas? Voilà, ce sont là des questions que nous nous posons en tant que défenseurs des droits humains au nom du respect des droits humains, au nom de la, du respect de la dignité humaine de tous ceux et celles qui subissent ces atrocités.
Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il y a risque de guerres régionales?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que mes prédécesseurs l'ont bien dit, mais lorsque le M23 avance dans, vers des zones qui sont contrôlées par d'autres pays, notamment l'Ouganda, ici comme vous l'avez dit, mais nous craignons des risques d'affrontement comme on en a connu à Kisangani, parce que ces États viennent pour exploiter de manière illicite des ressources de la République démocratique du Congo. Et chaque État va chercher à protéger ses intérêts, et avec cela, je pense que un risque d'embrasement régional n'est pas écarté.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, le dernier rescapé des musiciens qui avaient joué la chanson Indépendance, Tcha-Tcha, Yantula Elengesa dit Petit Pierre, est mort à la veille du 30 juin. C'était le samedi 29 juin dernier, ici à Kinshasa, à l'âge de 84 ans. Pour lui rendre hommage, on va écouter Sophie Amotema d'African Jazz. On revient juste après.
Sophia, Sophia, Sophia. Yo soy yo ni yo 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 Motema chérie, yo dali se bakila, na lo bakila.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la totale de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la totale de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la promesse du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de bannir les antivaleurs au sein de la police nationale congolaise. Nous avons également analysé le risque d'une guerre régionale avec la chute de Kanyabayonga et l'avancée des rebelles vers le nord. Participe à cette émission Blaise Zainda, il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Rostin Manketa, il est directeur exécutif de l'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans Voix. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Wackmann, elle est journaliste au journal Le Soir. Président du comité de suivi de la relance de la société sidérurgique de Maluku, Sosider, Mutombo Nsonsola, appelle les Congolais à cultiver les vivre ensemble pour baliser le chemin du développement du pays. Il a lancé cet appel en marge du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Pour lui, la division et la haine entravent les processus du pays vers le développement et vers le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Blaise Zainda, vous avez opté pour le sujet que vous formulez ainsi, problématique de cohésion pour faire face à la situation sécuritaire et dégradante dans l'est du pays. On vous écoute.
Merci beaucoup mon estimé frère Guy Maté, mon confrère. J'ai choisi ces sujets parce que je suis en train de me rendre compte comme journaliste, comme analyste de faits sociaux, de faits sécuritaires, de faits politiques, de faits économiques. Je me rends compte que nous sommes en tout cas beaucoup plus proches de l'implosion sociale que nous le pensons. Et cela profite malheureusement à tous les ennemis de la République et ça affond l'unité qu'il y avait dans la partie est de la République démocratique du Congo, parlons carrément de toute la République démocratique du Congo. Et contrairement à ce que les autres pensent que cette unité devrait se rasseoir sur le fait qu'il y aurait une table où tout le monde se mettrait et tout ça, ce n'est pas que ça. En tout cas, à mon humble avis, la cohésion repose sur des faits républicains notables. La cohésion repose sur la manière dont on gère nos ressources. Est-ce que nous les gérons de manière convenable, les peu de ressources que nous avons, nos richesses, les dégradations que nous connaissons au niveau des infrastructures, est-ce que c'est géré en priorité? Quels sont les projets qui sont mis en priorité? Quels sont les projets qui sont appelés à mettre en avant le bien-être du peuple congolais? Non, malheureusement, ce n'est pas ça. Et on sent mal une grosse cassure entre la partie ouest de la République démocratique du Congo, où il y a un semblant d'épée à part Kwamout qui vit des situations très compliquées, nous allons certainement en parler dans cette émission, mais il y a aussi ces peuples, ces populations qui s'entretuent, ces groupes armés que l'on tente d'officialiser en leur donnant d'autres noms, pourtant ce sont des forces négatives, qui sont des groupes armés communautaires, qui posent des problèmes. Aujourd'hui, avant cette émission, j'ai vu des populations entières en train de fuir en Ituri à cause des affres que commet la CODECO, ne parlons même pas du Sud Kivu, tout ça. Ce sont des situations qui nécessitent que nous allions au-delà de nos aspirations politiques, que nous allions au-delà de nos aspirations de notre ego politique, et que tous ces acteurs politiques-là se mettent en conjugaison avec les acteurs scientifiques, avec d'autres acteurs sociaux, pour que nous évitions le pire à la République démocratique du Congo. Si les autorités nous suivent, il est impérieux de ne pas laisser cette situation aux politiques qui, eux, on sait, n'auront pas de solution efficace. Il faut que les acteurs sociaux s'impliquent. Heureusement que vous avez dans cette émission un éminent acteur social qui est le directeur exécutif de la VSV. Il faut que tout le monde s'implique, les acteurs sociaux, la société civile, ainsi que les barzas communautaires. Toutes ces communautés. Il faut en tout cas qu'il y ait une grande réunion pour que nous évitions que la République démocratique du Congo puisse plonger dans le gouffre. Il ne suffit pas de tenir des discours tout simplement du genre « il faut être derrière le chef de l'État ». Non, ce n'est pas ce qu'il faudrait comme discours. Il faudrait une thérapie des chocs afin que nous évitions le pire à ce pays.
Et pour vous, voilà. cette thérapie des chocs passerait par quoi, concrètement?
Ça passera par... Il faut que nous allions au-delà de comme je l'ai dit, dans notre ego. Il faudrait que le chef de l'État, qui est le garant de la nation, réunisse son cabinet, réunisse ses intelligences qui sont autour de lui, afin d'étendre la main à tous les acteurs, aussi bien politiques, économiques que sociaux, pour que nous arrivions à mettre un terme à la situation qui mine la grande région de l'Est de la République démocratique du Congo, où il y a des groupes armés, je l'ai dit, qui sont identitairement communautaires, qui commettent beaucoup de bavures et qui écument les populations pour la plupart. En tout cas, il y a lieu qu'au-delà des politiciens, l'on puisse aussi consulter ceux qui sont directement liés à cette situation. Et c'est après que nous nous soyons mis ensemble que nous pouvons aborder maintenant le volet de la communauté peut-être internationale ou régionale qui devrait nous appuyer dans cette logique. Sinon, on est en train de naviguer à vue et d'ici quelques années, vous verrez que nous n'arriverons plus à voir ce pays comme on l'a aujourd'hui.
Merci, Madame Colette Pacman. Dans cet environnement caractérisé par la crise dans l'est du pays, caractérisé par la crise socio-économique, est-il facile de construire cette cohésion nationale comme le prône Blaise Aïnda?
Mais ce n'est pas facile, parce que la situation est vraiment très compliquée, mais ce qu'on constate tout de même, c'est qu'il y a un patriotisme de la population. La population veut rester dans les frontières du Congo, et les gens se définissent comme des Congolais, donc il y a un patriotisme. Mais maintenant, il faut le nourrir par des actes concrets sur le plan social. Il faut aussi discipliner l'armée. Quand on voit que dans certains endroits, la population fuit, quand elle voit les forces armées qui arrivent, ou qu'elle fuit les voisins qui sont des patriotes et qui combattent les ennemis, mais qui aussi vivent sur le dos de la population et commettent des exactions. Donc tout ça n'est pas fait pour donner la confiance. Le patriotisme doit se nourrir d'une relation de confiance et de fidélité avec des actes concrets.
Rosely Maketa, en plus de cette cohésion qui est recommandée, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que les Congolais soient en mesure de faire face à cette menace dans l'est du pays?
Écoutez, cher Guy Maté, je pense qu'il est important de s'approprier ce que dit Blaise Aïnda, c'est très important. Je crois qu'il faut encourager le vivre ensemble. Au-delà des ambitions politiques des uns des autres, qui sont bien sûr légitimes. Je crois qu'il faut que les Congolais que nous sommes, nous puissions éviter de nous comporter comme si, ici en République démocratique du Congo, on était des passages en attendant le pays vers lequel nous devons aller vivre. Non. Je pense que la cohésion nationale, le vivre ensemble sont très très importants. Malheureusement, ce que nous observons, c'est que souvent autour de chefs, de ceux qui gouvernent, qui gèrent, c'est plus de flatteurs qui sont tout autour, qui parfois ne permettent pas aux autorités de voir la réalité en face. Voyez-vous, c'est ça le grand problème. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui à l'Est, ça va être considéré comme l'affaire de tous les Congolais au-delà de nos appartenances, je dirais, tribales, régionales et bien d'autres. Là, c'est le pays tout entier qui est menacé, c'est le pays tout entier qui risque de nous échapper tous. Alors, il est important que les uns et les autres puissent oublier leurs égaux, et se dire, comme cela s'est fait sous d'autres cirques, face à la menace de l'intérêt général, face à la menace à laquelle nous faisons face avec l'agression, avec toutes ces parties du territoire national qui commencent à être contrôlées par d'autres forces, il est important que tous les Congolais, toutes les Congolaises, au-delà de ce qu'ils sont, au-delà de leur appartenance politique, tribale et bien d'autres, puissent se mettre ensemble pour faire face à ce qui menace la République démocratique du Congo. C'est très encourageant donc que tous se mettent ensemble autour d'une table. Je pense que la démocratie, c'est aussi le dialogue. Ce n'est pas un dialogue qui doit nécessairement aboutir sur le partage des pouvoirs ou du gâteau, comme les autres veulent bien le dire, mais un dialogue qui réunit tous les Congolais, le mettent ensemble pour sauvegarder je dirais, l'intégrité territoriale pour faire face à la menace de balkanisation de la République démocratique du Congo.
Merci, Madame Colette Lottmann. Vous avez dit que le patriotisme de la population est manifeste, mais comment vous comprenez le fait que certains Congolais, les uns facilement adhèrent à l'idéologie ou au discours de la rébellion, les autres vont même aller jusqu'à adhérer, n'est-ce pas, au mouvement rebelle. Et comment vous expliquez qu'en dépit du fait que les Congolais semblent être patriotes, mais ils vont quand même adhérer au discours de ceux qui sont en train de menacer l'intégrité de son territoire?
Mais je crois que plus qu'adhérer au discours, il y a des Congolais qui voient leur intérêt. Si vous voyez, par exemple, on parle du trafic des minerais, qui est réel, le nombre de minerais qui partent vers les pays voisins. Mais quand on va sur place et qu'on se rend compte que quand ça part vers les pays voisins, on a un meilleur prix au-delà de la frontière pour ces mêmes minerais, qu'on est moins contrôlé, ben, il y a un flux économique et tout. Donc, il faut avoir plus de rigueur aussi du côté congolais au niveau des douanes, des prélèvements, des trafics. La casserie de la population. Le patriotisme des gens se nourrit d'une prise en compte des besoins sociaux de la population, du respect des populations. Si les gens sont tracassés par les douaniers, par les militaires, par des combattants de toutes sortes, on ne va pas dire qu'ils adhèrent aux rebelles et aux étrangers, non. Mais ils auront peut-être plus de facilité. Et là, les forces d'invasion peuvent jouer là-dessus en disant, chez nous, vous serez mieux traités, si nous, on vous dit ce sera fait plus correctement. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens vont comprendre ça, mais c'est évidemment un risque. Donc le patriotisme a un prix qui est la bonne gouvernance.
Merci, on prend une petite pause en écoutant juste un peu d'amour des Madilou System. On revient juste après.
Vive la fondation Mama Chantal Dia au Cameroun.
Cause la tête moeta na boyoni nanga. Bongo etu ni makolonso ki akoya. Bokoya no eko kwaya yo komela. Est-ce que j'ai rendez-vous manqué yo yo? Bongo.
Salon Bodès, Alphonse Okinde.
Tangwa bombo de siele kaboni oba dute nangai Mislo mo sika nangate ya kato tane na libanda Mwali solo na lito yo Lobo kona yo na lipe karanga Babenga biswa taba kiliba
Fani sise
Mwali no yo koti dikanga na koninga na te Ino yo kondi meranga wananga na gaze
Mama Solantino
Olinga te mayati eko maya te mulu Olinga te nale la pona kozi Lisa moki le kozala 40 jours, 40 nuits Remondo de Yalolo Olingo ke baba te kaya te ofele
Roko Masari
Komi singa na fe rouge tala la mule fe
Frankie Villa
les retrouvailles, maman les kinalons. Yaka kobiki sangai kode pembele, mon ami personnel qui foati, José Kata, Adanga.
C'était juste un peu d'amour de Madilou System. Madilou System, cette voix qui a marqué l'histoire de la musique congolaise moderne, malheureusement qui nous a quitté depuis le 11 août 2007, ça fait donc 17 ans. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Blaise Zaïnda, il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Ronstein Maketa, il est directeur exécutif de l'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans Voix. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Wackmann, elle est journaliste au journal Le Soir. Les conditions de vie des déplacés des Kwamout vivant dans les entrepôts du marché central des Malebo à Bandundu ne cessent de se détériorer, constate une journaliste de Radio Okapi. Ces hommes, femmes et enfants ont fui les atrocités de la milice Mobondo à Kwamout à la suite du conflit intercommunautaire Tekeaka. Depuis 2 ans, 97 décès ont été enregistrés parmi eux, rapporte leur président François Tabouka. Ces décès sont dus à l'absence de prise en charge alimentaire et sanitaire adéquate. Jérémy Bikiele, directeur de cabinet du ministre provincial des actions humanitaires du Kwilu, parle d'une crise humanitaire oubliée par le gouvernement. Rostem Anketa, vous avez souhaité nous parler de la situation humanitaire difficile des déplacés des Kwamout avec augmentation des cas de décès sur les sites des déplacés. On vous écoute.
Merci beaucoup. Écoutez, près de 100 décès de déplacés des Kwamout, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. L'impression qui se dégage, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge conséquente, sérieuse de déplacés des Kwamout, d'où d'aucuns parlent d'une crise oubliée, une crise humanitaire catastrophique, une crise négligée. Et c'est vrai. C'est vrai, avec le constat qui est fait sur le terrain, car nous-mêmes, il y a quelques jours, une délégation de la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme a visité les déplacés des Kwamout qui sont à Bandundu-Ville. Pourtant, avec tout cela, de nombreux droits humains sont constamment violés suite à cette situation humanitaire très, très critique, voire préoccupante et chaotique. C'est le droit à la vie qui est constamment violé avec tous ces décès. C'est aussi le droit à l'alimentation, à l'eau potable, de déplacer, le droit au logement, aux soins médicaux, à l'éducation, j'en passe. Mais tous ces droits, en fait, sont violés par qui? Nous dirons clairement par les autorités congolaises, au niveau local, provincial et au niveau du gouvernement central. Parce que c'est à elles qu'incombe au premier chef la protection des droits de tous les déplacés. Comment peut-on comprendre que des citoyens congolais, parmi lesquels des femmes, des enfants venus de Kwamout, fuyant des atrocités, soient abandonnés de la sorte pour vivre dans des entrepôts, des marchés centraux de Malebo, abandonnés, et qu'ils manquent de tout? C'est vraiment inacceptable et même incroyable. Et les conséquences de cet état des choses, comme on l'a dit dès le début, c'est entre tous ces décès, je dirais, en cascade, qui ont été enregistrés. Et vous, c'est vraiment une interpellation par rapport à tous ceux et toutes celles qui ont le pouvoir d'agir, de le faire, pour soulager les souffrances de tous et des placés. Il y a dans ce pays des gens qui ont des millions de dollars, des millions d'euros. Pourquoi il n'y a pas de solidarité? Des personnes qui ont occupé des fonctions très importantes, qui continuent à les occuper, qui ont des moyens peut-être dont elles n'ont pas besoin. Pourquoi ne pas venir en aide à tous ces déplacés qui souffrent, qui manquent de tout? C'est vraiment une interpellation, c'est pour cela que nous avons voulu parler de ce sujet pour mettre cette thématique, une fois de plus, à la place publique et en même temps demander aux autorités congolaises de tout mettre en œuvre pour que ces déplacés, les souffrances de ces déplacés soient soulagées. C'est très très important. Et que tout soit mis en œuvre pour que, qu'il y ait rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire des Famous, pour que ces déplacés puissent rentrer dans leur milieu de vie respectif et qu'il y ait un accompagnement en termes de réinsertion sociale, parce que ces gens vont rentrer dans un milieu où ils ont tout perdu, où tout a été détruit, où ils ont réduit ensemble. Voilà, c'est un sujet très très préoccupant pour nous, un sujet qui nous préoccupe parce que plusieurs violations des droits humains sont violées du fait de cet état des choses.
Merci. Madame Colette Batman, peut-on parler, comme le dit le directeur des cabinets du ministre provincial des actions humanitaires dans cet élément, nous l'avons cité, il parle d'une crise humanitaire oubliée. Est-ce qu'on peut parler d'une crise humanitaire oubliée dans Kwamutu? Allô, Madame Colette Batman. Apparemment, il n'est pas là. Blaise Zainda, est-ce qu'on peut parler, comme l'a dit le directeur de cabinet du ministre provincial des actions humanitaires, d'une crise humanitaire oubliée par le gouvernement?
Oui, c'est totalement alarmant et c'est vraiment oublié, ça, parce que je ne sais pas et je ne peux pas comprendre que nous disposions d'un ministère qui devrait s'occuper de ce genre de situation, d'un ministre qui est payé par les trésors publics et ses collaborateurs sont payés par les trésors publics pour résoudre ce genre de situation. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite quant à nos compatriotes qui vivent dans des conditions difficiles. Et puis Kwamutu, ce n'est pas aussi loin de Kinshasa que le Tsré, Goma ou Mugunga, je ne sais pas où. C'est proche de Kinshasa ici. Il y en a de ceux qui sont à Bandundu-Ville. Par route, on peut les joindre facilement en une journée et puis on va déverser ce qu'il y a comme aide humanitaire. Ou bien on peut emprunter la voie du fleuve qui est celle naturelle qui nous permettrait de venir au secours de nos compatriotes qui sont dans des conditions difficiles. C'est un abandon total de nos populations et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où il y a des PDG, des chefs d'entreprise étatiques ici qui touchent 28 000 dollars américains, 30 000 dollars américains, 15 000 dollars américains, ainsi de suite. Ils ne sont pas plus congolais que ceux qui sont à Kwamutu, qui manquent deux fois un gobelet pour prendre une bouillie. Ça, c'est inacceptable. Hein? C'est ce que je suis en train de définir depuis le début. Ce sont les faits qui sont en train de ruiner et qui minent cette cohésion qui devrait habiter tout Congolais. C'est résoudre ce genre de situation que nous parviendrons à avoir, à parler d'une même voix, et nous tous aurons cette solidarité qui nous permettrait de faire face à toutes sortes d'ennemis.
Blaise Zainda, autant le gouvernement congolais a l'obligation et le devoir de prendre ces personnes en charge, autant les humanitaires ont le devoir, n'est-ce pas, de s'occuper de ces personnes vulnérables parce qu'on sait qu'ils ont des financements. Et, comment vous expliquez que même les humanitaires sont absents?
Mais les humanitaires sont déjà en difficulté. Vous avez vu ce qui s'est passé sur la route Butembo-Beni, où on a tué les humanitaires, des choses inacceptables que des personnes, parce qu'étant d'une autre région, soient martyrisées ou tuées. Des humanitaires qui ne viennent même pas avec l'argent du trésor public, mais qui travaillent avec l'argent d'autres pays, d'autres bons citoyens qui veulent aider nos populations qui sont en difficulté. Mais on les a massacrés. Et vous avez suivi il n'y a pas longtemps, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, a pu lancer des signaux d'alerte par rapport au fonds qui doivent être nécessaires afin d'aider à résoudre des situations. Et quand ils n'ont pas d'argent, on oublie que ces humanitaires-là vivent de l'argent des contribuables d'autres pays et des personnes de bonne volonté qui donnent leur argent. C'est ce qu'a dit le directeur exécutif de la VSV ici. Quand ces personnes-là n'interviennent pas, comment voulez-vous que ces humanitaires puissent travailler? Ce sera difficile, ce sera compliqué. Alors à défaut de les avoir, que l'État fasse son travail, que l'État joue son rôle.
Merci, c'est par là qu'on finit cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Restez Manqueta, Madame Colette Blackman et Blaise Zainda. Merci aussi à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Ginesi de King Caster et Menea. Et on se retrouve le samedi prochain.
Alice.